Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Au sommaire, aujourd'hui, les élections législatives en Finlande.
C'est ça, et la Finlande à la croisée des chemins politiques, peut-être avec les sociaux-démocrates en tête de ces élections législatives. Hier, ils font leur grand retour au pouvoir après 20 ans. L'extrême droite des vrais Finlandais progresse aussi fortement. Cependant, la Finlande vire donc à gauche, mais avec quelle possibilité de gouverner, ce n'est pas évident. On voit ça avec vous, Louis Clerc. Bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'être au téléphone. Vous êtes docteur de l'Université de Strasbourg et professeur en histoire contemporaine à l'Université de Turku en Finlande. Alors, les scores, ce sont 40 sièges pour les sociaux-démocrates, le SDP, 39 pour les vrais Finlandais, le parti d'extrême droite. Chacun contrôle donc un cinquième du Parlement, alors que le centre est le grand perdant de ces élections. C'est ce que déclare le premier ministre sortant, Juha Sipilä, qui se dit très déçu. Qu'est-ce que vous retenez d'abord, vous, sociaux-démocrates et vrais Finlandais? C'est le retour historique des sociaux-démocrates ou le fait que c'est une victoire très serrée?
Alors je retiendrai le fait que c'est une victoire très serrée. Donc c'est dans un sens une élection idéale, tout le monde a gagné, à part le parti du centre qui s'effondre et qui passe de 49 places à 31. Mais la gauche peut se targuer d'avoir remporté une victoire non seulement les sociaux-démocrates mais également les Verts qui ont plus 5 places, les sociaux-démocrates gagnent 6 places, etc. Mais ça reste insuffisant pour faire une majorité uniquement à gauche. Et en deuxième place, les vrais Finlandais reconstruits comme un parti d'extrême droite après leur problème de 2017, gagnent aussi énormément de sièges, essentiellement de la part des abstentionnistes qui se sont beaucoup reportés sur sur eux.
Oui, parce que les vrais Finlandais ont plus que doublé leur nombre de sièges par rapport à la précédente élection. Alors, vous l'avez dit aussi, tous les partis montent, donc sauf ce centre dirigeant, hein, le parti casque de Juha Sipilä. Est-ce que c'est lui le grand perdant de ces élections? Est-ce que la raison est claire aussi, c'est-à-dire sa politique économique qui a beaucoup été perçue comme une politique d'austérité ces 4 dernières années?
Clairement, oui. Et puis, il y a eu différentes affaires. La question de la réforme des régimes sociaux, de la réforme des systèmes sociaux qui s'est mis en place, qui a dans un État-providence comme la Finlande des ramifications assez importantes, non seulement dans le budget de la nation, mais aussi dans le partage des compétences entre l'État central et les municipalités, par exemple.
Alors ça, pour mémoire, c'était ce pacte de compétitivité, c'est ça, en 2016, cette réforme des régimes sociaux?
Non, ça c'est une autre réforme qui était censée faire économiser à l'État sur les régimes sociaux et transférer une certaine partie des régimes sociaux aux municipalités et aux organismes locaux. Et ça, comme le parti du centre est beaucoup un parti des régions, un parti des provinces, etc. Ça a eu un effet sur leurs résultats électoraux.
Parce qu'il y a eu une réforme de l'éducation également. On en parlait en préparant cette émission avec une semi-privatisation des universités. Vous diriez que ce centre et ce parti casque a perdu une grande partie de ses soutiens avec cette politique qui visait à sortir quand même la Finlande de la récession à l'époque.
Oui, je pense que le parti du centre paye une politique économique qui n'a pas plu à ses soutiens traditionnels, qui se sont reportés soit sur le Parti social-démocrate, soit même sur l'extrême droite et sur les vrais Finlandais.
Et dernière chose sur le score, le fait que pour tous ces partis qui montent, il y a un score donc supérieur au sondage qui a été fait, qu'est-ce que ça signifie pour vous?
Alors le Parti social-démocrate fait un score un peu moindre que ce qui lui était
sauf pour les sociaux, ouais, c'est ça.
Prévu par les sondages, mais le Parti des vrais Finlandais, par contre, par exemple, si on les considère, la campagne avait commencé de façon extrêmement bonne pour les social-démocrates. Ils avaient on leur prévoyait une victoire assez claire, mais au fil de la campagne, les vrais Finlandais les ont rattrapés de façon très très progressive et on voit dans les urnes la façon dont ce mouvement s'est continué. Donc on va dire que la grosse surprise de ce de ce scrutin, c'est la façon dont les vrais Finlandais ont réussi à rattraper les sociodémocrates au cours de la campagne. Mmh. Après, il y a d'autres partis qui ont beaucoup monté, comme les Verts, par exemple, qui font leur meilleur score historique.
Ouais, les Verts qui gagnent, je crois, 5 places, c'est ça, par rapport
aux
précédentes élections. Alors, le fait qu'il n'y ait aucun parti, par contre, au-dessus de 20%, les plus grands contrôlent un cinquième du Parlement, qu'est-ce que ça implique pour les négociations de coalition à venir? Est-ce que ça veut dire qu'elles seront très longues, alors que Antti Rinne, qui est le chef des sociodémocrates, disait vouloir conclure avant fin mai quand même? Est-ce qu'il est trop optimiste?
Alors c'est la question du scrutin proportionnel. Comment est-ce qu'on va trouver une majorité avec cette configuration du Parlement? Rinne évidemment veut faire vite parce que il y a des échéances internationales, en particulier la Finlande va être présidente du Conseil européen à partir de juin, donc on essaie de faire ça. Il y a un exemple suédois aussi qui est une sorte de repoussoir. Les élections suédoises en septembre 2018 ont été suivies par des négociations gouvernementales qui ont duré presque 5 mois. Donc j'imagine que l'INE veut évidemment aller plus vite, mais comment trouver une majorité avec ce résultat des urnes, alors que finalement personne n'a véritablement un mandat clair pour diriger. Ça va se jouer dans la semaine qui vient. Oui. Si la solution évidente qui apparaît, qui est une solution de grande coalition un peu à l'allemande entre les sociodémocrates et la droite modérée, si cette solution ne se met pas en place, alors tout est ouvert. On verra bien
Cette grande coalition qui se ferait avec donc les sociodémocrates et 4 autres partis, sans doute, dont le fameux parti pivot, on pourrait dire les Suédois,
le parti suédophone.
Suédophone, elle atteindrait 133 sièges, donc ce serait largement la majorité. Mais il y a aussi la possibilité d'une coalition avec ces vrais Finlandais, là, le parti d'extrême droite. En tout cas, Antti Rinne ne l'a pas exclu du tout, même s'il déclarait avant l'élection qu'il voulait pas s'allier avec eux. Cette fois-ci, il parle de valeurs et il dit qu'on va discuter sur les valeurs. Qu'est-ce que ça signifie encore?
Oui, alors le parti de la coalition nationale, donc la droite modérée, a aussi parlé de valeurs, mais pour le moment, personne ne sait véritablement ce que ça veut dire. Je pense que ça serait assez difficile d'avoir les sociodémocrates et les vrais Finlandais dans un gouvernement, dans un seul gouvernement. Mais il y a aussi énormément de points communs en ce qui concerne la politique économique en particulier, etc., etc. Donc je pense que la gauche n'ira pas au gouvernement avec les vrais Finlandais. Mais c'est vrai que pour l'instant c'est ouvert. Et je pense, d'après les déclarations qui ont été faites hier et ce matin, le premier scénario qu'on envisage, c'est une grande coalition. Je pense que les partis se positionnent pour ça, et ça va se décider dans les jours qui viennent.
Et alors, pour quelle politique ou programme possiblement applicable? Antti Rinne avait déjà dit, nous devons trouver des moyens équitables de rendre la société finlandaise durable. Ça fait référence encore aux réformes qui ont touché la Finlande ces dernières années et qui sont en cours. Notamment, il y a une réforme du système sanitaire et social à venir, sachant que la population de la Finlande vieillit beaucoup. 26% de la population aura plus de 65 ans en 2030, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Donc le gros problème de la Finlande, c'est comment maintenir un état providence avec une population qui vieillit, une population qui travaille moins et des budgets qui sont pas dans le rouge, mais qui menacent de passer dans le rouge. Donc c'est le grand dilemme de ce pays. Alors la politique du parti du centre et du parti de la coalition nationale avait été une politique d'austérité, de couper les budgets, mais également de favoriser par une réforme du marché du travail plus d'emplois, un niveau d'emploi plus élevé, de façon à ce qu'on paye des impôts et qu'il y ait des rentrées, etc., etc.
Et ça avait fonctionné d'ailleurs, puisque le chômage a baissé de 9,3 à 6,7% grâce à cette...
Oui, alors de ce côté-là, c'est vrai que ça avait fonctionné, mais après, la baisse des budgets, enfin les coupes dans les budgets avaient été énormément critiquées, et on peut dire que si les électeurs de la coalition nationale ont accepté et on va dire soutenu cette politique en renouvelant la plupart des sièges de la coalition nationale, les électeurs du Parti social-démocrate sont aussi des gens qui ont voté contre cette politique. Donc a priori, avoir les deux dans le même gouvernement, ça va demander des négociations assez subtiles dans les semaines qui viennent. Alors la Finlande est un pays de coalition, donc on est habitué aux coalitions gouvernementales, et il y a un système de programme de gouvernement. Donc dans les jours qui viennent, on va commencer à discuter d'abord de la coalition et ensuite du programme de gouvernement. Et là, on verra comment ils arrivent à mettre en place leur compromis.
Bon, bah écoutez, ce sera à suivre cette semaine et on aura certainement l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup pour vos explications ce matin, Louis Clerc. Je rappelle, professeur en histoire contemporaine à l'Université de Turku. Et bonne journée.